Vous êtes sur Europe 1 et il est 8h30. Nous sommes en direct avec le sociologue Jean Viard. Merci d'être resté avec nous pour nos auditeurs, Jean Viard. D'abord, une petite question simplement. Vous, vous êtes confiné comment, Jean Viard?
Ben, moi, vous savez, je me suis installé à la campagne après 68 dans une petite communauté agricole. Et au fond, je ne suis vu plus en communauté depuis fort longtemps, mais j'ai gardé la maison. Donc, je suis un privilégié extraordinaire parce que j'ai une grande ferme sur le sommet d'une colline que j'ai achetée pour 10 000 euros il y a très très longtemps. Donc là, je suis un privilégié total. C'est la conséquence d'une vie au fond plutôt marginale qui m'a amené à ça aujourd'hui.
Et c'est sûr qu'on n'apprécie pas le confinement de la même manière selon qu'on est dans un centre urbain, à la campagne. Non, mais c'est mon cas aussi, hein, j'ai un jardin, Jean Viard. C'est sûr qu'on est privilégié sur ce point-là, hein, c'était pas pour vous montrer du doigt. Patrice, lui, est en pleine nature, certainement agriculteur, et il a réagi en direct à l'interview avec Sonia Mabrouk. Bonjour Patrice.
Oui, bonjour Monsieur Viard.
Bonjour.
Vigneron et éleveur dans le Beaujolais. Je précise, éleveur de vaches à l'herbe. Donc, agriculture raisonnée, pas bio, mais on fait tout ce qu'on peut pour limiter le nombre d'intrants. Je suis président de la coopération agricole Auvergne-Rhône-Alpes, donc en charge de la défense des intérêts, donc à la fois des coopératives, mais surtout de leurs associés coopérateurs les coopératives essayent de rapporter le plus de rémunération à leurs agriculteurs, mais on a failli voir arriver une délocalisation de l'agriculture avant cette crise, tout comme on l'a vu dans le textile, parce qu'on se rend compte quand même que il est très difficile, et la part la part d'alimentation qui rentrait ne serait-ce que dans la restauration foyer de l'export à cause des règles de marché public qui favorisent systématiquement des produits à moindre coût. Entre autres choses.
Et Patrice, vous pensez que, pardonnez-moi, mais pour en venir à ce que vous disiez, vous pensez que le confinement peut changer notre regard là-dessus, justement, sur l'agriculture et comment elle est produite?
Alors, moi, c'est pas spécialement que le confinement, c'est la question que je veux poser à Monsieur Viard, et j'en profite pour lui dire que j'ai vraiment apprécié sa visioconférence au congrès des coopératives agricoles, où Caline n'avait pas pu se rendre, mais on avait apprécié sa vidéo. La question, c'est est-ce que vous pensez et comment faudrait-il que la profession agricole communique pour être certain qu'après tout ça, les Français vont continuer à reconnaître une agriculture qui est parmi celles des meilleures du monde aujourd'hui, d'accepter de consacrer à nouveau une partie de leur budget.
J'allais le dire, il y a le prix aussi.
Oui, mais le problème, si vous voulez, c'est que durant les générations, beaucoup de choses sont venues...
Bien sûr, et on a réduit la part de l'alimentation dans nos budgets. Non, mais c'est important ce que vous dites, Patrice, parce qu'en ce moment, il y a un élan de solidarité, et on le constate tous, et on ne peut que s'en réjouir, Jean Viard. Mais après le confinement, est-ce qu'on aura tiré des enseignements, ou est-ce que la vie reprendra son cours?
Mais on n'aura pas tiré des enseignements sur tout, parce que je veux dire que si on a organisé la mondialisation uniquement sur des règles de marché économique, en gros c'est parce que les produits étaient moins chers et qu'on en avait plus. Et qu'effectivement, si on avait eu des produits, mettons si on était resté dans une économie nationale comme à l'époque du général de Gaulle, nos maisons seraient à moitié vides, et effectivement on aurait beaucoup moins d'objets techniques, etc. Il faut dire les choses comme elles sont. Après, effectivement, je pense que cette crise va nous donner le sentiment qu'on avait perdu de vue, que le marché, c'est très bien, l'unité de l'humanité, c'est une chose excellente, mais en même temps, les souverainetés, ça ne se négocie pas. Et dans les souverainetés, il y en a quatre, pour moi, qui sont fondamentales. Il y a nourrir, il y a soigner, il y a éduquer, et il y a évidemment protéger. Et si vous voulez, là-dessus, je pense, et là, je serai d'accord avec Monsieur le Président, c'est qu'effectivement, la nourriture fait partie des souverainetés, parce qu'on voit bien qu'en période de crise, chacun se sert d'abord sur ce qu'il a chez lui. Celui qui fabrique des masques se les met sur le bout du nez, celui qui a des médicaments les donne à ses citoyens, etc. etc. Et puis s'il y a des surplus, on les donne aux autres. Donc le marché, face effectivement à cette situation, n'a pas des réponses nationales ou européennes quand c'est bien fait, mais pas toujours. Et c'est la vraie question de l'agriculture, c'est-à-dire que je crois que quand on a construit la PAC, c'était pour garantir la souveraineté alimentaire. Je rappelle que pour De Gaulle, il y avait deux souverainetés, il y avait l'arme nucléaire et il y avait l'alimentation. Et on a dit aux agriculteurs, nourrissez-nous, c'était après la période coloniale, après le moment où effectivement on se nourrissait en partie sur l'Afrique. Et du coup, ils l'ont fait merveilleusement. Et on a été indépendant. Et puis, on s'est laissé depuis quelque temps le marché régler toutes les limites, et je pense que c'est là-dessus qu'il faut revenir. C'est là où il y a un pacte, moi je le dis depuis des années, mais monsieur le Président le sait bien, j'étais encore en chambre d'agriculture en Bourgogne il n'y a pas longtemps, il faut faire un nouveau pacte entre la société et son agriculture pour garantir à la fois notre alimentation, notre façon de nous habiller, la captation de l'énergie, etc. Et puis en même temps, qu'est-ce qu'on donne? Quels moyens on met pour ça? Qui paye? En partie l'État. En partie, sans doute, effectivement, il peut y avoir des prix, mais il y a des gens qui ne peuvent pas laisser les prix augmenter. Donc c'est clair que la politique de l'État doit être plus énergique et la politique de l'Europe doit être mieux ciblée. Je crois que c'est essentiel, mais je pense que ça nous donne une petite fenêtre, cette crise, pour redéfinir les souverainetés. Et dans les souverainetés franco-européennes, on va dire, pour laisser l'échelle ouverte, je pense qu'il y a évidemment l'agriculture.
Mais Patrice, je vous garde en ligne avec nous, hein, mais on remonte un peu au nord par rapport à votre région, le Beaujolais. On part vers le Jura, où se trouve... Pascal, vous êtes avec nous, Pascal ?
Oui.
Bonjour. Il y a cette même idée d'une réflexion chez vous, je vois sur ma fiche, de quels enseignements, avant le confinement, après le confinement, qu'est-ce qui aura changé, Pascal ?
Oui, parce que on nous dit, on entend beaucoup, est-ce qu'on ne devrait pas en profiter pour changer, etc. Mais justement, je pense que c'est même pas se poser la question, c'est on va être obligé de changer, parce que avant le confinement, je pense qu'on allait un peu notre société, enfin le monde humain d'une façon générale, est un peu dans le mur, que ce soit en pollution, en financement, etc. Et je me disais que le confinement peut peut-être nous permettre justement chacun isolé, un peu revenir sur soi-même, se faire des réflexions sur soi-même, sans aller aller jusqu'à une psychanalyse, mais enfin réfléchir sur sa façon de vivre, son mode de vie, etc. J'ai assez confiance dans la population d'une façon générale, et c'est pas péjoratif, sur la solidarité, parce que ça s'est toujours plus ou moins bien fait. Il y a toujours eu des brebis galeuses, mais...
Oui, mais d'ailleurs, j'ai la question de Sylvie aussi sur l'hashtag Radio Ouverte. Est-ce que cette solidarité va continuer après le confinement? Vous dites qu'à l'échelle individuelle, vous y croyez?
Alors, j'y crois, oui, quand même. Par contre, ce que je m'interroge, c'est au niveau des dirigeants et des financiers, et c'est pas une accusation, c'est pas un rose sur nos dirigeants et nos financiers, c'est pas ça du tout, mais est-ce qu'il y aurait pas aussi une remise en cause à leur niveau, et qui prennent aussi le mouvement, et entre autres, essayer d'appliquer un vieil adage qui existe depuis des siècles, je ne sais plus qui l'avait sorti, c'est que l'argent soit un serviteur et non pas un maître. De mettre priorité sur le vivant. Je pense qu'il y a suffisamment de fortune à travers le monde pour pouvoir mettre la priorité sur le vivant, quel qu'il soit, que ce soit l'humain, les animaux, la végétation, etc., l'agriculture, pour que tout le monde soit nourri en bonne santé, etc.
J'en viens à vous répondre, Pascal.
Mais si vous voulez, j'entends bien l'espérance que vous dites. Hein. En même temps, il est clair que le chômage va augmenter, que les chômeurs auront plus de mal à trouver du travail, que les jeunes qui vont arriver sur le marché du travail en septembre, ça va être pour eux terrible. Donc si vous voulez, il va y avoir d'un côté une pression pour faire tourner la machine de production à toute vitesse pour retrouver de l'emploi, pour ceux qui en auront perdu. Il y a aux États-Unis, je crois qu'il y a 18 millions de chômeurs, et nous on est 6 millions à vivre en gros payés par l'État à la place des entreprises, donc c'est un phénomène absolument gigantesque. Et de l'autre côté, j'entends bien ce que vous dites, c'est-à-dire que il va y avoir un désir des gens que les choses changent. Ce qui peut vouloir dire des choses très contradictoires. Ça peut être se dire qu'après tout, le système totalitaire chinois était beaucoup plus efficace que nos démocraties, ce qui reste à démontrer, mais c'est pas forcément faux. Ou qu'effectivement, des régimes nationalistes qui reviendraient avec des frontières fermées, il y en a qui le demandent, c'est très bien. Donc ça peut être contradictoire, les sorties. Moi, je dirais une chose simple. À la différence de 45, on a fait le programme de la résistance pendant la guerre. Nous, le programme, on l'a déjà. Au fond, c'est la COP21. Le problème, c'est que, est-ce qu'on va être capable de faire les choix d'inflexion pour effectivement, je dirais, l'atteindre vraiment et pas en se disant on finira bien par y arriver, mais on sait pas très bien comment. Et je veux dire, est-ce qu'on va le faire? C'est d'ailleurs, je vous permets de rappeler que le groupe des 150 qu'on avait chargé de débattre dans la convention écologique là, que le président de la République met en place, ils viennent de sortir leurs revendications, leurs recommandations pour atteindre la COP21. Je pense que ça doit être à partir de là, ce qu'ils ont fait, on sait que le gouvernement s'était engagé à les suivre, les politiques doivent les suivre. Je pense qu'il faut appliquer ce que ces gens ont dit, et il faut aller dans cette direction, et je pense qu'à ce moment-là, effectivement, la société aura l'impression, on va souffrir, on va perdre de l'argent certains d'entre nous, c'est évident qu'il va falloir rembourser ce qu'on a emprunté, etc., dans les temps qui viennent, mais si on sent qu'on va dans une direction où l'humanité, par rapport au climat, peut s'en sortir, c'est-à-dire que nos enfants et nos petits-enfants peuvent vivre de manière décente en France, etc., je pense que les gens pourront l'accepter. Et au fond, c'est ça qu'on est en train d'apprendre, c'est que quand il y a vraiment une urgence, on serre les coudes et on accepte que l'orage passe.
Question complémentaire de Paul sur le hashtag Radio Ouverte, complémentaire si ce n'est qu'on revient dans le très concret. Le MEDEF qui appelle à travailler plus à la fin du confinement. Quelle est votre réaction, demande Paul, quand vous dites que de votre côté que cette période va nous apprendre à être plus solidaires?
Bah, il y a des jours où il faut savoir se taire. Si je peux me permettre d'être aussi dur avec le président du MEDEF, je veux dire que dans certaines entreprises, il y ait des accords avec les syndicats pour effectivement accélérer certaines chaînes de production, compte tenu du fait que pour remettre la machine en marche, c'est compliqué parce qu'il y a des entreprises qui ont des problèmes de pièces, etc. Tout ça, tout le monde peut le comprendre. Mais l'idée d'en faire en soi une politique générale et qu'on ait l'impression qu'on nous sorte la vieille revendication du travailler plus du MEDEF, je pense que ça, c'est inatteignable. Surtout que qui sait qui va dire ça. On va dire ça aux infirmières, on va dire ça aux caissières, on va dire ça aux chauffeurs de camions. Je veux dire qu'il y a quand même presque 60% des gens qui continuent à travailler, et je veux dire, dont une partie dans des conditions difficiles. Et donc, je veux dire, je pense que c'était le genre de formule qu'il fallait éviter. Et je pense qu'il faut le dire très simplement, c'était à éviter. Tout le monde ne devra pas travailler plus, et il se peut que dans certaines entreprises, il y ait des accords pour que la chaîne de production se réamorce, mais c'est en aucun cas, ça ne peut pas être une politique générale. On est déjà puni une fois, on ne peut pas être puni deux fois.
Je pense que nous sommes régis par la dictature de l'émotion, nous dit Gilles en Charente. Et il est en ligne avec nous. Bonjour Gilles.
Oui, bonjour.
Nous vous écoutons avec Jean Viard.
Bonjour.
Oui, voilà. Moi, ce que je voulais dire, c'est qu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on est effectivement régis par la dictature de l'émotion et de la peur. À longueur de journée, on égrène dans les médias le nombre de morts. Le politique pour lequel on a voté aujourd'hui, apparemment, s'en remet aux médecins. C'est-à-dire aux experts, ce sont les experts qui gouvernent. Alors la vraie question que je me pose moi, c'est quelle part de nos libertés individuelles sommes-nous prêts donc à céder, à abandonner au nom de quel intérêt général et qui définira cet intérêt général?
C'est une vraie question, hein, Gilles. Merci de la poser à Jean Viard, parce qu'il y a la liberté de circulation, il y a aussi cette question du traçage de nos téléphones.
Non, mais c'est une question immense, parce que c'est pour ça que, fine de rien, j'aime bien cette idée qu'on est en économie de guerre, parce que tout le monde, pendant la guerre, accepte, on vous envoie au front, vous n'avez aucune envie d'aller vous battre, ni de mourir comme ça, et n'empêche que, mine de rien, vous y allez. Et au fond, mais ça peut, à une condition, c'est que ça soit une séquence, et que ça soit pas un ordre nouveau. Quand on essaye d'en faire un système politique derrière, c'est un monstre absolu, on l'a assez vu en Europe pour s'en rappeler. Donc je suis d'accord, il y a des règles importantes à mettre, mais derrière, l'idée, effectivement, que pour lutter contre le réchauffement climatique, il y a effectivement des pratiques qui vont évoluer et qui nous limiteront. Prenons un exemple simple. Vous voyez, je discutais avec les grands professionnels du tourisme, puisque souvent je les conseille. Ils me disaient, est-ce qu'il y aura encore des week-ends de 3 jours à New York? Est-ce qu'on se dira pas, non mais attends, si je vais à New York, j'y reste au moins une semaine, j'y vais peut-être 2 fois dans ma vie, je vais pas y aller 3 jours. Est-ce que je vais aller à Marrakech pour le week-end? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des choses, par exemple, peut-être qu'on ne vendra plus des billets week-end pour traverser la planète? Il y a des choses comme ça qui risquent de disparaître. Est-ce que c'est une perte de liberté? Oui, mais en même temps, quelque part, à la marge, par rapport aux besoins qu'on a, par exemple, de diminuer l'impact de l'aviation, même si ce n'est que 3%, je crois, des pollutions. Donc, je pense que sur un certain nombre de plans, il se peut que ça soit de ce style. On peut très bien décider que les ménages, quand ils ont 2 voitures, il y en a une qui est électrique. Et on fait une grosse prime pour que ça soit comme ça. C'est une limite de liberté, c'est en même temps pas une limite totalement grave. Donc, on peut prendre des mesures de ce style, qui effectivement nous réoriente, mais effectivement sans pour autant nous emprisonner dans un système totalitaire.
Voilà pour Gilles en Charente. Merci Gilles de votre appel. Alors je voudrais vous lire le tweet de Ahmed sur le hashtag Radio Ouverte. N'est-ce pas salvateur pour chacun d'entre nous d'apprendre un peu la solitude, la réflexion, l'ennui? Et au-delà de cette question d'Ahmed, est-ce qu'on peut même, Jean Viard, dans ce contexte, apprécier la situation pour soi-même?
Mais c'est difficile parce qu'il y a des gens qui sont malades et il y a des gens qui meurent. Mais après, je pense que l'ennui, c'est une qualité. Je me rappelle, j'avais fait une fois l'éloge de l'ennui en disant un enfant qui ne s'ennuie jamais, c'est au fond un enfant qui a du mal à progresser. D'ailleurs, de nos jours, avec les jeux électroniques, les machins, ils sont tellement suroccupés. Je disais souvent, de temps en temps, débrocher leur tout pendant une journée parce que il y a besoin de s'ennuyer. C'est un moment de réflexion, d'apprentissage, etc. Après, bon, il y a des gens qui ont des conditions et peuvent le faire. Et puis l'ennui, ça dure 2 mois, c'est plus de l'ennui, c'est de la dépression. Donc je veux dire, voilà. Mais après, je suis d'accord, s'ennuyer de temps en temps n'est pas dramatique. Cette séquence, individuellement, elle n'est pas dramatique pour tout le monde. Il y a des gens qui vont lire, il y a des gens qui vont réfléchir, il y a des couples qui vont se retrouver à réapprendre à se parler, parce que quand on est deux, qu'on travaille, qu'on a les enfants, on court dans tous les coins, on se croise plus qu'on ne se met en face à face. Donc il y a tout ça. Il y a aussi les femmes battues, les enfants battus, les couples qui souffrent, etc. Mais je suis d'accord que pour beaucoup de gens, ça va être une période. Vous savez, on est en train de se construire des souvenirs. Et ces souvenirs, c'est à la fois la souvenir de fierté des actes positifs qu'on a fait, d'aller travailler dans un métier à risque, d'aller aider une vieille personne. Tout ça, c'est d'avoir téléphoné une vieille tante à qui on parle jamais, parce qu'effectivement, on se dit, tiens, celle-là, elle doit être toute seule. Donc, tous ces gestes-là, ça nous fabrique des souvenirs et ça nous fabrique une fierté. Et c'est très important. Je pense qu'en sortant, il y en a qui auront, je dirais, des souvenirs positifs et il y en a qui auront des souvenirs de lâcheté. Ils seront allés faire du jogging quand c'était pas autorisé, ils seront allés sur les plages quand c'est fermé. Au fond, ils auront été lâches face à la contrainte. Et je pense que n'oublions pas qu'on construit la fierté du futur, nos souvenirs personnels, dans une aventure collective.
Merci beaucoup alors à Ahmed pour sa question élargie et merci à vous Jean Viard pour ses réponses à nos auditeurs. Jean Viard, sociologue, directeur associé au CVPOF CNRS. Jean Viard, merci beaucoup.
Merci à vous, au revoir.